15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la fatigue, car c'est vrai, hein, nous sommes tous, un jour ou l'autre, fatigués de trop travailler, fatigués de ne pas trouver le sommeil, de chercher l'âme sœur, ou même fatigués parfois d'élever nos enfants. Et bien, avec notre invité, Léonard Anthony, spécialiste en hypnose et en autodéveloppement, dans cette émission, nous allons vous apprendre à vraiment vous reposer. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va faire une mise au point sur les bienfaits et les risques des anti-inflammatoires. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous parlerons aujourd'hui d'un dispositif mal connu des Français, le préservatif féminin. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de bisexualité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Mathias, 29 ans.
Bonjour Mélanie, j'ai une petite question. J'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui étaient allergiques à l'eau. Du coup, j'aimerais savoir si ça existe vraiment. Merci à vous.
Alors ça, Jimmy, même moi, je vous avoue que j'avais jamais entendu parler d'une éventuelle allergie à l'eau. Est-ce que ça existe vraiment? Parce que j'imagine que si c'est vrai, ça doit être un enfer pour les patients qui en sont atteints, non?
Oui, ça appartient à la catégorie qu'on appelle des urticaires physiques. C'est-à-dire qu'on peut être allergique lorsqu'on nous touche, lorsqu'on prend le soleil, et puis à l'eau, l'urticaire aquagénique. Mais rassurez-vous, vous avez plus de chances de gagner l'auto que d'être atteinte de cette maladie.
Ah oui.
C'est une personne sur 230 millions en moyenne.
Oh oui,
donc c'est extrêmement rare, mais effectivement, ça existe.
Bon, ça existe, d'accord, mais c'est l'eau en elle-même qui provoque cette allergie, cette urticaire, comme vous dites, ou il y a autre chose,
enfin, je sais pas. C'est plutôt les micro-organismes qui sont dedans, et à l'échelle plutôt moléculaire, et certains minéraux. Ce qui fait que certains vont avoir des plaques, comme quand on a une allergie classique, comme quand on fait de l'eczéma, ou développer de l'urticaire, donc des petites plaques en relief qui démangent. Et puis, dans certains cas, si on est authentiquement allergique et qu'on va tout d'un coup prendre un bain, et ben on peut faire une réaction un peu plus grave, comme un choc anaphylactique. Mais encore une fois, c'est vraiment une niche. Et en règle générale, les personnes sont très vite identifiées.
On en parle parce que c'est rare, mais que ça existe quand même. Donc, on fait le point dans son rendez-vous. Donc, c'est une vraie allergie, vous venez nous expliquer. Mais alors, comment on fait quand on a atteint? Parce que l'eau, on en a besoin. On doit en boire, on doit se laver.
Je sais que ça ferait plaisir à votre fils qui n'aime pas beaucoup se laver. Et donc, s'il avait cette maladie, il pourrait dire, écoute, maman, impossible de prendre la douche. Mais néanmoins, la prise en charge, elle est plutôt compliquée. Elle est multidisciplinaire parce qu'il y a un impact psychologique évident. Globalement, les dermatologues vont traiter ça comme une allergie, on va dire, classique, avec des antihistaminiques, des pommades, des précautions à prendre. C'est un peu un calvaire pour les personnes qui subissent ça, mais encore une fois, c'est rare ici, mais la prise en charge, elle est codifiée, et surtout dans des centres un peu experts.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi, on pouvait prendre éventuellement des bains quand même, quand on a cette allergie, et que ça pouvait marcher parfois en ajoutant dans le bain une substance, enfin un truc, bicarbonate de soude, je crois.
Oui, exactement, sauf que ça, c'est un peu empirique, on ne sait pas trop les mécanismes, malheureusement, de cette maladie. Dans l'allergie, on sait très bien comment ça se passe, c'est lié à une décharge qu'on appelle d'histamine, qui nous fait cette réaction inflammatoire et qu'on a une éruption. Là, dans l'allergie aquagénique, l'urticaire aquagénique, les mécanismes sont un peu plus opaques, on ne sait pas trop s'il y a un caractère héréditaire ou pas, mais oui, effectivement, il y a des petites recettes qui peuvent aider.
Difficile de savoir plus sur une maladie qui est aussi rare, effectivement. Mais merci en tout cas, Jimmy, pour toutes ces précisions. Donc, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Mathias, 41 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed, Mathias, 41 ans. Je vous appelle car avec ma femme, on a eu le diagnostic de notre petite fille. Elle est donc diagnostiquée asthmatique et on se posait quelques questions. Elle a 9 ans, elle adore le tennis en ce moment et on se demandait si elle allait pouvoir continuer à pratiquer le tennis et puis plus tard d'autres sports. Est-ce que ça va vraiment impacter toutes ces sorties sportives? Rassurez-nous s'il vous plaît, merci beaucoup.
Alors un papa inquiet, une petite fille de 9 ans qui va être diagnostiquée asthmatique. Donc Jimmy, est-ce que on peut le rassurer? Est-ce que sa fille va pouvoir continuer à faire? Donc elle, c'est du tennis apparemment, comme les autres enfants.
Évidemment, elle peut et elle doit faire du sport comme les autres. Un enfant asthmatique doit avoir une qualité de vie normale lorsque la maladie est équilibrée. Ce qui veut donc dire que pour l'équilibrer, il faut suivre un traitement. On donne souvent un traitement de fond, des corticostéroïdes inhalés, donc des petits inhalateurs qu'on prend au long cours. pour éviter des crises et nous permettre d'avoir une activité normale, c'est-à-dire de ne pas être réveillé la nuit, d'aller à l'école, d'avoir une activité physique normale, et ce qui permet donc à sa fille de faire du sport, du tennis, de la piscine ou ce qu'elle veut.
Je crois même qu'on dit que l'activité physique chez les asthmatiques, ça améliore même la maladie. En quoi précisément ça l'améliore?
Ça améliore clairement la tolérance à l'effort. Les enfants asthmatiques qui font du sport tolèrent mieux l'effort que les autres, et à contrario, un enfant asthmatique qui n'en fait pas va se désadapter bien plus rapidement, car la maladie asthmatique est une maladie inflammatoire où les bronches sécrètent plus de mucus, et ce qui fait que lorsqu'on les stimule un peu plus, qu'on fait un exercice plus régulier, fréquent et intense, eh ben on va développer sa capacité respiratoire. Ah. Donc il est important de faire du sport d'une façon générale, mais encore plus quand on est asthmatique.
Parce que donc c'est comme un traitement à part entière, ça peut même peut-être parfois remplacer un peu les médicaments.
Alors on remplace pas les médicaments, mais ça fait partie du traitement. Dans l'école de l'asthme, on donne plein de conseils aux parents pour les traitements de la crise, comment faire lorsqu'il y a un traitement qui ne marche pas. Et en l'occurrence, faire une activité physique tous les jours, c'est au moins une heure par jour pour les enfants, permet justement d'éviter des crises et d'avoir un meilleur contrôle de la maladie.
Juste rapidement, il y a quand même pas quelques précautions à prendre?
On fait pas d'asthme quand on fait pas de sport quand on est en crise d'asthme. On fait pas de sport lorsqu'il fait moins de 0 degré, on se couvre bien, on met une écharpe, on s'échauffe, et si on sent les symptômes arriver, on utilise l'inhalateur pour éviter la crise.
Et on évite les pics de pollution, j'imagine.
Exactement,
aussi.
Surtout quand on fait un sport en extérieur. Il y a des applications pour ça qui nous disent si c'est le moment ou pas de faire du sport dehors.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Mathias qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va faire une mise au point sur les bienfaits et les risques des anti-inflammatoires. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, Léonard Anthony, spécialiste en hypnose et en autodéveloppement, avec qui on va parler fatigue, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Avec lui, on va vous apprendre à enfin vraiment vous reposer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
De vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité Léonard Anthony, avec qui on va parler des solutions contre la fatigue. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez des anti-inflammatoires. D'abord, c'est quoi précisément ces médicaments?
Alors c'est des médicaments qu'on utilise dans le traitement de la douleur, de la fièvre ou pour lutter contre l'inflammation dans certaines pathologies chroniques, notamment en rhumatologie. Et on distingue deux choses, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont on connaît tous le nom, l'ibuprofène, l'aspirine ou certains qui sont un peu plus forts, et puis les anti-inflammatoires stéroïdiens représentés par la cortisone qu'on peut utiliser au long cours dans certaines pathologies.
D'accord, et alors pourquoi on dit que anti-inflammatoire et infection, ça ne fait pas bon ménage?
Alors l'exemple est tout simple, l'explication est toute simple, pardon. Quand vous avez une infection, il se crée de l'inflammation. C'est-à-dire que quand vous avez une plaie, vous avez une zone rouge autour de la plaie, qui fait dire à vos globules blancs « Attention, il se passe quelque chose, il faut venir sur le site de l'infection
pour défendre. »
Sauf que quand vous prenez des anti-inflammatoires, vous coupez ce message inflammation. Du coup, les globules blancs pensent que tout va bien et l'infection, au lieu de pouvoir la lutter,
elle flambe.
C'est pour ça qu'on ne prend jamais d'anti-inflammatoires quand on a une infection comme une bronchite, une pneumonie, une angine, parce qu'il y a un risque authentique de surinfection.
D'accord. Et quels médicaments il faut... vous avez dit qu'il y en avait des plus dangereux, des plus forts, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus risqués que d'autres?
Oui, il y en a qui sont faiblement anti-inflammatoires. D'accord. Par exemple, l'aspirine et l'ibuprofène sont faiblement anti-inflammatoires. Le risque existe, mais il est moindre. En revanche, on a de vrais anti-inflammatoires comme le diclofénac, le kétoprofène,
ça, c'est fort,
qu'on peut utiliser dans certaines lombalgies ou dans certaines sciatiques. Eux, là, peuvent être extrêmement dangereux. Et attention, on n'associe jamais deux anti-inflammatoires ensemble. On ne prend jamais de l'aspirine avec de l'ibuprofène. Et de la même façon, on ne prend jamais de corticoïdes avec un anti-inflammatoire. Et un message tout simple, si vous prenez des traitements, n'hésitez pas à le dire, parce que souvent en consultation, je me rends compte que les patients prennent ces médicaments-là parce qu'ils sont en libre accès à la pharmacie et pensent que ce n'est pas grand-chose. Et nous, derrière, on va se mettre à prescrire de la cortisone avec un risque de surinfection majeure.
Et la double cocktail, là, ce n'est pas possible, effectivement. Donc, on dit aussi qu'avec l'estomac, ce n'est pas toujours bon. Enfin, il peut y avoir des douleurs.
Les anti-inflammatoires sont formellement contre-indiqués lorsque vous avez une pathologie de l'estomac, notamment un ulcère. On ne prend jamais d'anti-inflammatoire. Le risque, c'est d'avoir une hémorragie digestive.
Donc,
vous avez un ulcère, vous ne prenez pas d'anti-inflammatoire. Mais ce n'est pas tout, ça peut aussi être problématique pour les reins. Il y a un risque d'insuffisance rénale, notamment en cas de gastro-entérite. Et puis, on sait une chose, c'est que certains anti-inflammatoires ont un risque majoré d'événements cardiovasculaires.
Ah oui, d'accord.
Donc on évite de les prendre au maximum et surtout, on les prend à la plus faible dose et pendant la période la plus courte.
Donc effectivement, des médicaments indispensables mais pas anodins. Merci docteur Jimmy Mohamed. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et en autodéveloppement. Il est aussi l'auteur du livre Fatigue. Et si on apprenait vraiment à se reposer chez Flammarion.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Léonard Anthony.
Bonjour Mélanie.
Alors avec vous aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de fatigue, hein, c'est l'objet d'un de vos livres. D'abord, on est d'accord, il y a plusieurs types de fatigue. Il y a des fatigues bonnes et puis des fatigues, la plupart, qui nous font suer quand même.
Absolument, il faut distinguer une première chose, c'est que la fatigue avant tout, c'est un signal. C'est un signal qui nous dit à la base, qui nous rappelle que nous sommes des êtres vivants et qui nous dit qu'il est temps d'arrêter. Et qu'est-ce qui distingue la bonne de la mauvaise fatigue? La mauvaise fatigue, c'est celle qui vous colle à la peau quand vous avez arrêté et que vous avez commencé à vous poser. La bonne fatigue, c'est celle qui suit, par exemple, un peu d'activité physique. Vous parliez de l'asthme tout à l'heure et des enfants. C'est un point fondamental que d'apprendre à être en mouvement, notamment quand on commence à se contraindre. Eh bien, la bonne fatigue, c'est ça. Je m'arrête, je souffle, je respire, je me sens bien. C'est une fatigue qui apporte un sentiment de bien-être.
Rien que votre voix, je trouve qu'elle nous repose déjà.
Je suis déjà détendu.
Hein, Jimmy ?
J'ai pas fait de sport, mais je suis détendu. Et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? C'est une histoire avec un ami médecin qui lui aussi était très fatigué, c'est ça ?
Alors en fait, on n'arrive pas à se questionner sur la fatigue par hasard. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart des gens qui venaient me consulter, à un moment ou à un autre, prononçaient le mot « je suis fatigué, je suis épuisé, je suis éreinté » pour des raisons diverses et variées. Et un jour, je dînais avec le docteur Adrien Chaboch, qui est un ami avec lequel on collabore, et il vient, il rentre, il est survolté. Moi, j'ai à peine planté ma fourchette dans mon assiette, qu'il a fini la sienne, je remarque qu'il est assis sur une fesse. Il a un enfant en bas âge, il a des consultations qui n'en finissent plus, entre son cabinet privé, l'hôpital, etc. Il court dans tous les sens. Et là, j'observe véritablement tous les signes avant-coureurs d'une forme de burn-out. On est dans l'antichambre, dans le burn-in, on en parlera tout à l'heure. Et là, je lui dis, écoute, tu veux pas t'asseoir d'abord avant même de... Et c'est là où j'ai commencé à lui parler de cette idée. Et j'ai senti que c'était en résonance immédiate chez lui.
Peut-être on va faire un tout petit exercice tout de suite pour nos auditeurs qui sont là, derrière le poste. Et un petit exercice peut-être. Comment on sait là si on est fatigué? Vous n'avez pas un petit exercice à nous proposer?
Alors,
comment on
réalise cette fatigue? Ce que je peux vous dire à ce stade de l'émission, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est inutilement en train de se fatiguer? Vous voyez, par exemple, vous tenez votre tête de travers actuellement.
Oui,
vous,
je me redresse.
Voilà, vous avez vos épaules qui sont contractées, vous tenez tout. Vous n'avez pas besoin de faire tous ces efforts physiques inutilement. Vous pouvez simplement vous poser. Voilà, vous êtes beaucoup plus tranquille. Vous respirez mieux, ça se voit d'ici. Voilà, ça y est, c'est encore mieux. Donc, on peut faire des choses simples. C'est déjà observer comment on est installé. Moi, je décris un exercice que je fais quasiment moi toutes mes nuits dans mes insomnies que j'adore. Mais je me suis rendu compte que je me tenais physiquement. C'est-à-dire que j'avais beau être allongé, j'avais la nuque surélevée. Voilà des choses simples. Voyez comment vous êtes en train de vous asseoir.
Alors, je redresse ma tête, je suis bien assise. Je vous dis à tout de suite, puisqu'on poursuit cette discussion dans un instant.
Avec plaisir.
Europe 1.
Dans un instant, on vous dit tout sur la fatigue et comment apprendre enfin à se reposer vraiment. On va commencer par la fatigue professionnelle, le fameux burn-out, comment repérer les signes qui doivent nous alerter et surtout comment le soigner, arriver surtout à gérer un travail passion, car c'est souvent dans ces cas-là, quand on adore son boulot, qu'on peut finir par se faire consumer par ce dernier. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Savez-vous qu'en France, 1,4% de la population est née un 29 février ?
Ça n'a aucun intérêt de le savoir. Vraiment aucun intérêt.
Comme sur nos crédits à 0% chez Opel. C'est la semaine des SUV chez Opel. Et jusqu'au 31 octobre, nos crédits à taux zéro sont sans intérêt.
Un crédit sans intérêt, vous avez intérêt d'en profiter.
Crédit au taux 0% sur 36 mois. 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,77 €. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Opel Financial Service. Offre jusqu'au 31 octobre sur véhicules éligibles et détails sur opel.fr.
Chez Vérissure, nous savons qu'un cambriolage sur 3 a lieu en présence des habitants.
Bonjour Manu, je vois que t'as fait installer ton alarme.
Eh oui, tu sais, les enfants sont de plus en plus souvent seuls à la maison.
Alors, rassuré?
Ah oui, oui, et tu devrais vraiment jeter un œil sur leur site.
T'as raison, je regarde ça tout de suite.
Rendez-vous sur verissure.fr pour demander votre devis en moins d'une minute. Pour partir l'esprit tranquille, c'est sûr, c'est Verissure.
Quand on s'est fait...
Aïe!
Nociceptol.
Nocic-quoi?
Nociceptol. Quand on a...
Oui!
Nociceptol.
Nocic-quoi?
Nociceptol. Douleurs liées aux courbatures, au sport ou simplement à l'âge, efficace, rapide, Nociceptol est un gel antidouleur à base d'huiles essentielles. Disponible en pharmacie ou sur nociceptol.fr. Nociceptol, et la douleur s'envole.
Nociceptol est un dispositif médical CE fabriqué en France par le laboratoire Polydis. Consultez les instructions avant utilisation.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Dans un instant, on revient sur la fatigue et surtout sur les moyens de s'en défaire enfin.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, Léonard Anthony, praticien en hypnose et en autodéveloppement, avec qui aujourd'hui on dit stop à la fatigue. Alors, on va commencer par la fatigue professionnelle, le fameux burn-out dont on parle beaucoup. C'est quoi ce burn-out ?
Alors, le burn-out a été identifié et théorisé par un psychiatre américain dans les années 70. Ça touchait beaucoup de gens issus du corps médical et la santé. Et maintenant, on a élargi cette nomenclature et cette dénomination. Grosso modo, on constate que des gens qui sont trop investis, c'est le point de départ, qui ont une trop grande idée de performance d'eux-mêmes, qui veulent s'investir énormément, qui ont envie de faire bien, sont des gens qui, à un moment donné, commencent à se consumer. C'est le cas de figure le plus répandu. Il y a aussi, évidemment, des gens qui sont sous pression par leur hiérarchie. Et à un certain stade, petit à petit, un certain nombre de facteurs commencent à être identifiés. Il n'y a plus d'envie. Il y a une étape où on se met en recul, où on ne se sent plus à sa place, on ne prend plus la parole. Et ce n'est pas qu'on se désinvestit, on est toujours très investi par l'idée qu'on doit agir, mais on commence à se laisser tomber.
Jimmy ?
C'est intéressant cette idée de passion et de se dire que plus on est investi, plus on a un risque de burn-out. Moi, je suis plutôt des patients dont vous en avez parlé qui subissent la pression, notamment Absolument. De l'administration. Et comment on fait concrètement pour essayer de reconnaître certains signes, alors pas une fois qu'on a déjà des idées suicidaires, mais des signes avant-coureurs de burn-out ?
Bien, la première chose, c'est d'observer un certain nombre d'éléments qui sont clés, comme son envie de s'alimenter, par exemple. Quand quelqu'un n'a plus envie de manger, c'est qu'il y a un souci. Quand quelqu'un dort de plus en plus mal, ce sont un ensemble de signaux auxquels il faut être attentif. Et moi, très souvent, quand quelqu'un vient me voir, je lui demande « Est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin traitant ?» qui est quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un avec qui il a une idée de votre biologie, parce que tout d'un coup, vous pouvez aussi avoir des facteurs conjoints, comme une carence en vitamine D. Donc, il faut être attentif à un ensemble et à l'intégralité de votre écosystème. Néanmoins, quand quelqu'un n'a plus envie d'aller au travail, quand le matin, il se lève en se disant « Encore une journée », là, il est impératif que votre entourage immédiat, familial, commence à vous éveiller à cette idée-là.
Vous disiez que c'était souvent des gens très passionnés par leur travail au départ, qui adorent leur boulot, qui s'investissent à fond. Comment on peut apprendre à gérer cette passion sans qu'elle nous consume justement au travail ?
C'est la question essentielle parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on se laisse envahir par cette passion professionnelle au détriment de beaucoup, beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Un jour, je reçois une femme qui vient me voir et qui me dit « J'ai vraiment le sentiment de ne plus être à ma place à mon travail. Je me consume à mon travail. » Mais ce qu'on avait noté aussi, c'est que sa passion personnelle, qui était la course à pied, elle faisait du demi-marathon, elle avait laissé tomber progressivement pour pouvoir être disponible à des horaires impossibles. Elle arrivait à 7h, elle partait à 22h du bureau. Elle négligeait aussi ses enfants. La première des choses qu'on a réintégrées, c'est ce qui faisait battre son cœur, c'est-à-dire la course. Et au fur et à mesure où elle a réintégré des éléments qui sont fondamentaux dans sa vie, des choses se sont mises à bouger, à se rééquilibrer. Tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait dire non. Mais c'est en prenant appui sur ce qui compte et ce qui est essentiel dans votre vie que vous allez cesser aussi en même temps de vous consommer là où ce n'est pas nécessaire.
Vous racontez aussi le cas d'un jeune banquier, je crois, qui a carrément perdu sa voix, qui était finalement le reflet d'un burn-out, c'est ça ?
Oui, alors j'ai rencontré plusieurs cas là-dessus. Je vais vous donner un cas similaire et qui va vous intéresser. Un jour, je reçois une chanteuse, ce qui est quand même un souci, qui est dans les prémices d'un burn-out. Elle travaille tellement qu'elle a perdu sa voix. Donc, on fait un ensemble, son médecin lui fait faire un examen complet, tout va bien, et elle suffoque d'angoisse. En fait. Et dans une séance où je l'invite à travers l'hypnose à s'installer dans le fauteuil et à entrer dans cette musique auquel elle tient, je lui propose à un moment donné de chanter, mais à l'intérieur, sans externaliser la voix, une chanson que je lui propose. Elle me dit « J'aimerais chanter Cry Me a River ». Le titre de la chanson dit beaucoup. Et elle se met à chanter « Cry Me a River » sans aucune tonalité. Et petit à petit, je l'amène à se lever et à simplement laisser sortir un ersatz de voix. Et au bout d'une quinzaine de minutes, 20 minutes, elle s'est mise à chanter. Donc, ça montre à quel point ces facteurs sont émotionnels et comment le corps se verrouille quand on n'est plus à sa place, quand on commence à se laisser épuiser et quand on se laisse déchirer par la fatigue.
Léonard Anthony, on va poursuivre dans un instant, toujours sur le burn-out et sur d'autres sujets. Restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on continue ce voyage au cœur de la fatigue. Vous verrez, la solitude aussi nous épuise parfois, ou alors à l'inverse, c'est notre famille, notre conjoint, nos enfants qui peuvent aussi de temps en temps littéralement nous épuiser. Comment apprendre à se préserver un peu de ce qu'on aime pourtant le plus? On vous dira tout, restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Léonard Anthony, praticien en hypnose et en autodéveloppement, avec qui aujourd'hui on apprend à se reposer, à reprendre pied. Alors, il y a quelques minutes, Léonard, on a fait le point sur le burn-out, la fatigue professionnelle. Et à présent, on va passer quand même à la vie privée, la vie intime, hein, qui peut aussi être source d'une fatigue intense. Vous dites dans votre livre que la solitude, par exemple, peut épuiser. Comment c'est possible? Parce que finalement, quand on est seul, au moins, on n'est pas fatigué par les autres, non? Enfin, je ne sais pas.
Oui, la fameuse phrase qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ».
Bah oui, je sais pas, j'imagine qu'on est moins fatigué quand on est seul, moi, je ne sais pas pourquoi.
Il y a une première chose qu'il faut rappeler, c'est que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Rappelez-vous Robinson, quand il se retrouve seul sur une île, il commence par dessiner un personnage. On est un animal social. Et donc, c'est un facteur clé qui explique beaucoup, beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à vouloir être avec l'autre? Pourquoi on veut être en communauté? Pourquoi on est des millions dans une ville?
Pourquoi on cherche l'âme sœur, absolument, comme une chasse pour certains, hein, c'est
exactement,
ça que vous dites.
Exactement. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette question-là, qui est « je ne veux pas rester seul ». Et donc, de ce fait, la recherche de l'âme sœur peut vite devenir, et en particulier à l'ère du digital, une source de fatigue extraordinaire. Ça, c'est un point clé.
Et vous le voyez beaucoup dans votre cabinet, justement, oui, ça, des gens épuisés par la recherche comme ça de l'âme sœur.
Oui, alors de tout âge, je vois des gens qui sont jeunes, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais aussi des retraités, parce que leur époux ou épouse est décédé, et au bout d'un certain nombre d'années, la solitude pèse. Les enfants, quand on en a, ne sont pas toujours là. Et c'est un vrai point qu'il faut considérer, parce que cette fatigue-là est une fatigue qui se mélange au reste. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les fatigues ne sont pas cloisonnées. Il n'y a pas la fatigue professionnelle, la fatigue amicale, la fatigue personnelle, familiale. L'ensemble se mélange en permanence. Et il arrive que des gens dans cette quête-là, dans une époque où vous êtes extrêmement sollicité, je pense en particulier, je vous le disais, aux objets numériques, vous êtes inscrit sur une application de rencontre, je n'en citerai aucune, eh bien,
moi, je ne suis pas inscrite dessus. Hein,
c'est votre choix. Vous allez recevoir énormément de notifications. L'intention à la base est bonne, mais vous allez recevoir énormément de notifications. Donc, vous allez répondre à toutes ces notifications. Donc, vous allez avoir plusieurs rendez-vous par jour. Et de ce fait-là, votre comportement va devenir une source d'épuisement.
Jimmy ?
Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut renoncer à cette quête de l'âme sœur et de l'amour ?
Absolument pas. Ce serait une telle hérésie que de renoncer à l'amour. Je crois au contraire qu'il faut trouver la bonne place et l'ajustement. Par exemple, moi, ce que je conseille aux gens, c'est désactiver les notifications. Allez sur l'application quand vous avez envie d'y aller. Mais vous n'êtes pas obligé d'être bombardé, de répondre à tout en permanence. C'est une injonction supplémentaire que vous vous infligez. La deuxième chose, c'est aller à la rencontre de votre propre solitude. Je vous raconte une histoire courte. Un jour, j'ai une femme qui vient me voir et qui me dit « Voilà, ça fait un moment que je combats cette solitude-là. » Il y a ce qu'on appelle, vous savez, la fameuse horloge biologique qui se met en place à l'approche de la quarantaine et elle s'effondre en larmes parce qu'elle est arrivée à un moment où elle a eu, je crois, 50, 70 rendez-vous en 3 mois. Elle a rencontré personne parce qu'elle ne peut vraiment rencontrer personne puisqu'elle ne s'est pas vraiment rencontrée elle-même. Donc, elle s'épuise dans cette quête. Et je lui ai proposé de partir pendant un week-end de 2 jours, ce qui était beaucoup pour elle, seule. Elle n'avait jamais vécu cette expérience. Et je lui ai dit... Vous avez du mal à être seul, ça vous épuise de vouloir fuir cette solitude. Je vous invite à aller à la rencontre de cette solitude. Je reste disponible au téléphone, vous m'appelez, et je lui conseille de lire un livre. Elle avait passé par des phases assez complexes où elle m'appelait en me disant « Voilà, c'est tellement dur d'être seule. » Et puis au bout de 2 jours, elle revient, elle me dit « J'ai eu l'impression d'avoir croisé une personne que je ne connaissais pas. » Eh bien, figurez-vous que dans les mois qui ont suivi, elle a continué à rencontrer des personnes. Donc, vous voyez, mon conseil, ce n'est pas désinscrivez-vous des sites de rencontre. Mais elle les a rencontrés en leur proposant de rencontrer quelqu'un, pas en étant absente dans la rencontre. Et c'est ça qui est clé et fondamental. C'est soyez là, ne cherchez pas à fuir la solitude en vous épuisant au travers de cette façon de vivre, mais allez en mouvement.
Alors, on vient de parler des gens épuisés par la solitude. On va peut-être passer à ceux qui sont encore peut-être plus fréquents, je ne sais pas, vous allez nous dire, mais qui peuvent être épuisés par la famille, par le mari, les enfants. Ils peuvent nous épuiser, on les aime pourtant, toutes ces personnes qui nous entourent.
Ah, mais ça, j'ai passé Mélanie, là.
Non, okay, moi, je ne suis pas épuisée par mon mari, il est charmant. Je l'embrasse, d'ailleurs.
Vous avez raison. Je pense que c'est une source gigantesque de fatigue, parce que, Moi, j'ai noté que pour moi, en tout cas, la première véritable expérience de la fatigue telle que je ne l'imaginais pas, c'est l'arrivée d'un enfant, par exemple.
Oh, c'est vrai. Pardon.
Voilà, je ne sais pas si...
L'arrivée d'un enfant, il y a 4 mois, un troisième enfant.
Vous voyez, je pense qu'on met...
C'est plaisant pour tout le monde, c'est vrai.
Voilà, c'est une vraie expérience de la fatigue parce que la première chose, c'est qu'on notre rythme du sommeil est brisé, et pas par notre propre volonté, elle est brisée parce que l'enfant pleure au milieu de la nuit, et c'est normal. Et donc, vous vous rendez compte aussi que vous arrivez au bureau et que vous êtes crevé toute la journée, vous travaillez, vous rentrez le soir, vous êtes fatigué avec l'idée d'anticiper la nuit qui va venir. Donc l'anticipation est une véritable
dans
source
tout, hein,
de fatigue dans tout. Donc ça, on pourra en parler, c'est aussi un vrai sujet. Comment est-ce qu'on traite la question de l'anticipation? J'en ai beaucoup parlé dans le livre. Mais ces fatigues ne se cloisonnent pas. Et toujours pour raconter une histoire, je me souviens d'un jour, je sortais d'une journée épouvantable de réunions et de rendez-vous. Je rentre dans le métro, c'était archi bondé. Je sors, il se met à pleuvoir, je n'avais pas d'imperméable.
La totale.
J'arrive chez moi et j'entends derrière la porte la crise, vous voyez, tout le monde se met à hurler, il est 19h.
Là, vous faites demi-tour, vous ne rentrez pas finalement.
Et ben,
ça, j'ai hésité parfois, moi ça m'est déjà arrivé.
Figurez, c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai mis la clé dans la porte, et je me suis dit, tu rentres pas, peut-être la pluie c'est mieux. Et c'est là que j'ai compris une chose que j'ai proposée dans d'autres circonstances à des personnes qui venaient me voir. Je suis rentré et j'ai dit pause. Pause, tout le monde fait une pause et... En vérité, la notion de faire une pause et de refaire une pause juste après, c'est-à-dire de redoubler la pause, c'est la clé du repos.
Il faut dire que vous avez une façon de dire pause qui est sympathique. Je pense que quand vous rentrez chez vous, papa Anthony dit pause, on écoute. Moi, je dis pause. Ça serait moins sympa, je pense.
Ouais, mais ça, je vous laisse demander à ma femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé par faire tomber toutes les injonctions. La première des choses, c'est, vous savez, on est dans la course le soir en rentrant. Il faut que les enfants aient mangé, il faut qu'ils soient couchés avant 8h30 ou 9h selon les familles, etc. Voilà, donc il y a une série d'injonctions. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, on décale tout de 30 minutes. Et chacun va faire ce qu'il veut dans sa chambre. Moi, je me suis allongé sur le canapé et j'ai attendu que la fatigue que j'avais sur moi puisse, d'une certaine façon, se dissoudre dans le canapé. Et le fait de décaler de 30 minutes, et je pense que, Jimmy, vous irez dans le sens de ce que je veux dire, ça repose les enfants derrière. Parce que si les enfants vont se coucher énervés et excités, ils ne vont pas pouvoir trouver le sommeil parce qu'ils sont sous tension. Tandis que s'ils ont eu le temps de simplement, ces 20 minutes, 30 minutes, de se poser, tout d'un coup, le dîner n'est pas le même. Une tension change complètement et on est ouvert à une autre dimension de la fatigue.
Jimmy ?
Bah moi, je suis déjà détendu, hein, c'est extraordinaire, mais vous avez raison.
Il a presque plus de cernes, ça y est. Allez,
ça va nettement mieux. Mais comment est-ce qu'on fait, par exemple, si on doit dire à son conjoint ou sa conjointe qu'elle nous épuise, qu'elle nous fatigue?
Mais qu'on l'aime quand même.
Mais qu'on l'aime quand même. Voilà. Alors, j'ai pas de message personnel à passer, hein, c'est juste.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de messages quand même ici. Mais... blague à part, c'est une dimension complexe, mais essentielle dans le cadre d'une relation. Parce que nous sommes tous les uns et les autres amenés à épuiser l'autre.
Vous allez dire à votre femme déjà, tu me fatigues, c'est déjà arrivé?
Je crois il y a 2 jours encore. Je l'ai dit là, je l'ai dit pour le vrai.
Et alors, on fait comment après?
Eh bien, la première des choses, c'est que bon, déjà, elle me connaît, elle sait que c'est une considération importante parce qu'il faut entendre dans le sous-titre, par exemple, du livre où je dis « et si on apprenait vraiment à se reposer deux dimensions ?» Ce que je veux dire par là, c'est si on apprenait vraiment à se reposer de la fatigue, mais aussi sur la fatigue, se reposer sur elle, c'est-à-dire de changer, d'arrêter de la combattre et d'en faire une alliée. La fatigue est un bon signal. Donc dès lors, comment est-ce qu'on peut traverser la fatigue, de faire de ce mauvais signal un bon signal, en faire une alliée? Eh bien, dans la question que vous me posez, il y a cette dimension-là. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un « je ne suis pas capable de t'entendre maintenant » Je prends un exemple, le nombre de fois où on peut avoir une discussion qui démarre à 23h30, parce que les enfants sont couchés, par exemple, ou par exemple, vous rentrez d'un cocktail ou d'un dîner et vous dites, vous avez ruminé toute la journée une discussion que vous avez pu avoir avec votre mari ou votre femme. Et vous dites à 23h45, c'est le moment de démarrer la discussion. La personne en face se dit, je suis mort, je ne vais pas dormir, moi je vais tourner en boucle et demain je vais être crevé. Hein, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens.
Ouais.
Eh bien, si tout d'un coup, vous dites à la personne en face de vous, je suis déjà épuisé avant même d'avoir commencé cette conversation et nous allons épuiser à la base tout ce qui peut sortir de bon de cette conversation. Prenons rendez-vous demain, parlons-en demain après le dîner. On ne regarde pas de film, on ne se connecte pas, c'est un truc, mais on s'installe ensemble pour être ensemble. Eh bien, voilà une façon d'explorer la fatigue tout autrement.
Merci beaucoup Léonard Anthony d'être venu sur notre plateau.
Avec grand plaisir.
Grâce à vous, on est déjà beaucoup moins fatigué. Je vois Jimmy, il a l'air beaucoup mieux. Au moins, on a quelques armes maintenant pour apprendre à la virer enfin cette fatigue. Alors fatigue, justement, c'est le titre de votre livre chez Flammarion. Je signale aussi un autre ouvrage que vous venez de publier, toujours chez Flammarion, « Qu'est-ce que l'hypnose ?» de François Roustan. Merci encore.
Merci infiniment.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on ne parle pas vraiment d'un bobo, mais d'un outil. On parle du préservatif féminin. Et oui, connaissez-vous ce moyen de contraception? Comment ça se met précisément? Jimmy nous dira tout. Combien ça coûte? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
C'est un préservatif donc, qui est... tu mets à l'intérieur, ça peut se garder 6 heures, je crois. Parce que c'est un truc un peu rond qu'on met dans son vagin. Et...
ça ressemble un peu celui masculin, sauf qu'il est un peu plus grand, du coup, et il s'adapte au contour de l'appareil génital de la femme.
Comme une sorte de petit sac plastique, je dirais que la femme met dans son vagin avant un rapport.
On peut l'acheter en pharmacie, mais c'est beaucoup plus cher que le préservatif masculin. Donc, et en plus, c'est beaucoup moins commode, en fait.
Peut-être dans des supermarchés, mais je pense que j'ai jamais vu ça. Et dans des plannings familiaux.
Bah, il sert à éviter les grossesses, hein, ou à éviter la contamination par le sida, quoi.
Ça peut craquer, ça peut être mal mis, tout dépend de comment on l'applique. Et voilà, enfin, c'est vraiment très aléatoire, en fait.
C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup moins que le préservatif masculin, juste parce qu'il est moins connu.
L'idée comme quoi le préservatif féminin, c'est un petit peu nul ou un petit peu un truc que personne n'utilise. Mais voilà, j'ai jamais entendu des gens qui l'utilisaient autour de moi, en tout cas.
Jamais entendu. Et oui, effectivement, parce que c'est très très peu connu, effectivement, contrairement à son homologue masculin, le préservatif, donc masculin. Jimmy, d'abord, c'est quoi et comment ça s'utilise un préservatif féminin?
Alors, le préservatif féminin fonctionne comme le préservatif masculin. Il empêche le passage des spermatozoïdes dans le vagin et donc la fécondation. Concrètement, c'est une gaine en nitrile ou en polyuréthane.
Ah oui.
Alors, faut pas rigoler parce que ce nom barbare permet aux femmes qui sont allergiques au latex de l'utiliser. Et il est muni d'un anneau souple aux deux extrémités. Il se place donc dans le vagin.
Comme certains l'ont dit dans le micro-trottoir.
Exactement.
Ils savent à peu près où ça se mettait, en tout cas.
Donc dans le vagin, utile pour le moment de la pénétration. Et puis, on peut le mettre en place plusieurs heures avant le rapport sexuel. Et il doit être changé, en revanche, à chaque rapport sexuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde longtemps.
D'accord. Alors, on a compris comment ça fonctionne. Vous avez été très clair, Jimmy. Mais est-ce que c'est aussi efficace que le préservatif masculin, finalement?
Alors, en théorie, le préservatif féminin est efficace à 95%.
Donc, ça, c'est l'utilisation. Un petit peu moins que la préservative, mais c'est pas mal.
C'est quand même pas mal. La seule chose, c'est qu'en pratique, les gens ne le posent pas correctement. Et donc, finalement, son efficacité... chute à 80%. Donc, il y a quand même un peu plus de risques. En revanche, on peut utiliser cette contraception en complément d'un autre moyen de contraception. On va prendre la pilule ou autre chose. Parce que finalement, ce moyen permet d'éviter de tomber enceinte et puis aussi permet de lutter contre les infections sexuellement transmissibles.
Oui, c'est pas que contraception, effectivement.
Comme le préservatif masculin. Voilà, c'est vraiment son homologue. Alors, par contre, on ne met pas un préservatif féminin et un préservatif,
double préservatif
masculin.
Non, ça marche
ça, c'est pas terrible.
C'est pas bien.
Mais vous pouvez utiliser un autre. Et si jamais un accident survient, eh ben, vous êtes protégé d'une éventuelle grossesse.
Et éventuellement, donc vous avez dit des IST aussi, c'est intéressant. Des MST, hein, c'est ça. Parce que bon, alors, ça a l'air moins efficace, ça vous l'avez dit, 79%. 80%, je crois, si, parce qu'il est mal utilisé en pratique. Pour ceux qui hésitent à se lancer, c'est quand même quoi l'avantage finalement de ce préservatif féminin? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs?
On n'a pas besoin d'ordonnance pour ça, donc ça c'est déjà pas mal.
Ouais.
On a dit qu'il protégeait contre les infections sexuellement transmissibles, c'est très important.
Il y en a en ce moment en plus, ça circule beaucoup, les chlamydia, la syphilis.
Le gonocoque, voilà, moi je vois énormément en consultation. On a de moins en moins de VIH, et tant mieux, mais on a de plus en plus d'infections sexuellement transmissibles. Et le stérilet, la pilule haute ne protège pas contre ces infections. Il est aussi résistant qu'un préservatif masculin. Il peut être placé plusieurs heures avant, donc ça peut avoir un côté pratique.
Mais oui.
Et puis, finalement, ça, il ne coûte pas si cher que ça.
Mais oui, c'est quoi le coût, justement?
Alors, la boîte de 3 coûte 8,70 €, donc c'est correct.
Ça va.
Mais on peut en obtenir gratuitement, ça c'est intéressant, dans les centres de planification et d'éducation familiale. Donc, c'est dans les centres où, justement, on peut faire des dépistages pour le VIH ou d'autres infections sexuellement transmissibles. Donc, ça peut être un truc pas mal, et donc on peut en acheter en pharmacie. Et sur Internet, mais attention, on n'en achète pas n'importe où.
Ouais.
Il faut que ce soit des sites homologués.
Bien CE, marquage CE, et pas n'importe
quoi. Pour éviter d'avoir
de
mauvaises surprises, parce que si jamais un accident survient, et ben là, vous êtes exposé à un risque de grossesse. Et donc, faites attention.
Donc, effectivement, gratuitement, dans les centres de planification et d'éducation familiale, c'est intéressant. Et ça permet d'avoir, d'ailleurs, de connaître tous les moyens de contraception,
parce
qu'il y en a plusieurs.
Exactement,
et
il
n'y
a pas un seul moyen
pas,
de contraception. C'est celui que vous préférez et celui qui vous sera le plus pratique. Donc, n'hésitez pas à en discuter. Le premier relais, c'est le généraliste. Mais n'oubliez pas les sages-femmes. Les sages-femmes font de la consultation de suivi de façon normale, comme les gynécologiques, à un tarif un peu plus abordable.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de la bisexualité. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Benjamin, 27 ans, qui nous a écrit de Rouen. Je vous lis sa question, elle est courte mais efficace. Bonjour Catherine, est-ce que la bisexualité, ça existe vraiment? Est-ce qu'on n'a pas toujours une préférence tout de même? Voilà. Au moins, est-ce que ça existe quoi, c'est clair comme question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la bisexualité d'abord?
Eh bien, c'est avoir l'envie d'une pratique sexuelle, enfin pratiquer une sexualité hétérosexuelle et homosexuelle. Voilà, se chercher et du côté féminin et du côté masculin de soi-même, l'épanouissement du féminin et du masculin de soi-même, dans un rapport au féminin et au masculin de l'autre. Encore que le féminin ne soit pas toujours porté par le féminin et le masculin par le masculin. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire en tout cas chercher à, ne pas être limité par son genre. Voilà.
Mais est-ce qu'on est, entre guillemets, est-ce que dès le début de sa sexualité, on est bisexuel ou c'est quelque chose qu'on devient après, je sais pas, avoir mûrement réfléchi à la question, j'en sais rien.
Non, en fait, nous nous construisons avant la sexualité, nous nous construisons avec des images, ce qu'on appelle des imagos féminins et masculins. C'est-à-dire que nous allons nous construire dans un modèle hérité de maman et dans un modèle hérité de papa qui nous donne deux images de nous-mêmes. Quand arrive 2 ans et demi, 3 ans, nous découvrons notre genre et nous le découvrons par le biais.
On en parlait hier, justement.
Voilà, nous le découvrons par le biais du langage, c'est-à-dire l'attribution du pronom féminin-masculin à l'un ou à l'autre de façon définitive. Et donc, du coup, l'enfant entend qu'on lui attribue le « il » comme papa exclusivement ou le « elle » comme maman exclusivement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une découverte qui peut être douloureuse pour l'enfant puisque c'est comme si on l'amputait d'une partie de lui-même. Et donc, tous les jeux vont être possibles pour essayer de nier cette appartenance genrée. Et donc, plus tard, ça peut se transformer en jouant à un côté l'un, un coup l'un, un coup l'autre, pour justement être dans un déni de notre appartenance de genre.
Jimmy ?
Mais en fait, quand on est bisexuel, ça veut donc dire qu'on n'est pas forcément en couple avec une seule personne ?
Alors, il y a des gens qui sont en couple avec une seule personne, mais qui ont, en dehors de leur couple, une vie érotique et sexuelle avec quelqu'un du même genre qu'eux, par exemple, ou à l'inverse, pour explorer justement...
Oui, si on aime les filles et les garçons, on s'arrête, on est avec un garçon, mais on va être en manque des filles, entre guillemets. Enfin, je veux dire, on imagine que si on aime les deux genres...
Voilà, mais il y avait un film français, Gazon maudit, qui racontait bien aussi des organisations... à trois, il y a des couples,
des troupes
qui s'organisent même et qui vivent ensemble, même très officiellement.
Ça peut fonctionner, ça?
Alors, c'est comme le couple, est-ce que ça peut fonctionner? C'est toute la question. Ils sont aussi dans les cabinets de thérapie, donc vous savez, il n'y a pas besoin d'être dans la complexité de trois pour que ça soit déjà très complexe.
Jimmy?
Et c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les hommes ou chez les femmes, ou c'est finalement ça touche autant les deux sexes?
Ça touche autant les deux sexes, ça ne répond pas toujours aux mêmes attentes, aux mêmes recherches, c'est-à-dire par exemple un couple, prenons le couple hétérosexuel qui a des expériences homosexuelles. Chez les hommes, il va rechercher quelque chose de très sexuel, quand chez les femmes, c'est plutôt quelque chose de très tendre. Donc, non pas que la sexualité féminine serait de toute tendresse et la sexualité masculine de toute agressivité, mais fondamentalement, ce que les hommes vont aller chercher, c'est le côté beaucoup plus animal et bestial, quand les femmes vont aller chercher auprès d'une autre femme quelque chose de plus maternant, de plus rond, de plus à l'écoute de ce qu'elles sont. Et évidemment que ça rend compte de nos ambivalences, mais ça rend compte aussi de ce qui manque dans le couple lui-même.
Mais ça existe vraiment, la bisexualité? Parce que justement, je reviens sur la question de Benjamin, est-ce qu'on n'a pas quand même toujours une petite préférence pour un sexe ou l'autre, quoi?
Bah, on a de toute façon, alors une préférence, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un jeu avec la partie dont on sait qu'elle n'est pas légitime. Pour certains, d'être hétérosexuel parce que je me sens profondément homosexuel, et que c'est un peu une sorte de trahison, d'infidélité à mon mode de fonctionnement. Pour d'autres, c'est d'aller vers l'homosexualité tout en me sentant profondément hétérosexuel. Donc oui, il y a une sorte de, non pas de préférence, mais d'inscription qui cherche régulièrement dans une rébellion à essayer d'explorer un peu autre chose de soi-même. Mais de toute façon, nos fantasmes, même quand nous sommes fondamentalement hétéro ou homosexuels, nos fantasmes, notamment la nuit, nos rêves nocturnes, mais aussi nos fantasmes agissant dans une relation, dans notre relation au quotidien, peut venir chercher des choses dans cette ambivalence, dans cette ambiguïté, sans que pour autant on l'ait acté. fondamentalement dans le réel d'une autre relation.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, il sera question de la nutrition des enfants. Notre invité, le docteur Le Cerf, vient de sortir un livre qui est en fait un guide des bonnes pratiques alimentaires à adopter en famille, avec tout plein de conseils. Vous verrez, vous pourrez appliquer chez vous. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous. L'équipe sauvage arrive avec cet après-midi comme invité Catherine Sellac. Elle publie un livre où des personnalités se livrent et racontent leur rapport à l'amour. Je peux vous dire déjà en avant-première qu'Eva Rock va elle-même beaucoup s'épancher dans cette émission.
Merci beaucoup Mathieu. Je vous souhaite une belle émission. Restez sur Europe 1.